Oui, je pense qu'on peut parler de trois grandes phases qu'on peut résumer ainsi. Donc, il y a eu la période évidemment coloniale, la période des indépendances qui était quand même grosso modo héritière des structures et des hommes qui avaient été mis en place à la période coloniale, avec quand même un renouvellement assez important, bah, évidemment des contenus, mais aussi des personnels. Mais on restait dans le cadre depuis les indépendances d'une voie officielle en général. C'était quand même assez lié à la structure du pouvoir, au monopartisme qui a été en vigueur quand même pendant plusieurs décennies dans les pays indépendants. Donc c'était une voie officielle qui pouvait avoir plusieurs stations, mais bon, en général, ça se résumait à la radio nationale. Et ensuite, bien sûr, avec la démocratisation des années 90, il y a eu cette floraison assez spectaculaire d'ailleurs à l'époque de radios privées, lancées parfois avec de tout petits moyens. Et c'est un peu sur cette lancée que nous vivons aujourd'hui, même s'il y a eu depuis les années 90 un peu de structuration du champ et on y voit un peu plus clair, quoi.
Les années 90, il y a un lien avec le sommet de la Baule.
Oh, il y a un lien indirect puisque le sommet de la Baule est resté dans les mémoires comme un des moments qui a lancé un peu ou qui a accompagné ou qui a manifesté la démocratisation des institutions, l'adoption du pluripartisme. Enfin, il est clair que c'est tout un ensemble de phénomènes qui se sont concentrés sur ces années 90. Et par ailleurs, bien sûr, la création des radios n'a rien à voir avec les injonctions venues de l'extérieur. C'était vraiment des initiatives locales, nombreuses
Qui
d'ailleurs.
était lié au fait du développement de la FM.
Alors absolument, la FM a donné un outil beaucoup plus souple pour pouvoir émettre. C'était aussi quand même lié un peu à ce nouvel ordre des choses politiques, puisque les premières radios privées apparues ont été assez vite commerciales, mais il y a eu quand même le champ, par exemple au Mali, a été assez tôt dominé par les radios des partis politiques ou des mouvements démocratiques commencer à investir la scène politique. Donc, il y a eu ces diverses impulsions. Voilà.
Est-ce qu'au niveau de ces radios-là, on peut les présenter de la même manière qu'en France, en catégorie?
Oui, on a une catégorie quand même qui est très spécifique en Afrique. Donc, on a beaucoup de radios qui ont été qualifiées de radios communautaires, qui concernent plutôt les terroirs ruraux à l'intérieur du pays. Mais bien sûr, cette catégorie des radios communautaires elle-même entre dans la grande catégorie des radios associatives. Dans un pays comme le Mali, je pense que c'est assez semblable ailleurs, on a les radios privées commerciales, on a les radios associatives, on a également des radios confessionnelles par ailleurs, et il y a bien sûr la radio publique qui parfois a plusieurs canaux de diffusion. Juste un mot quand même à propos des radios publiques, pour revenir un peu en arrière. Les radios publiques avaient développé, après l'indépendance et dans les années 70, des stations dédiées à la radio rurale, puisque c'était tourné vers le développement notamment des pratiques agricoles, donc l'information en direction des communautés et des producteurs. Voilà, donc il y avait déjà une tradition d'émission dédiée au monde rural, et ça a été repris par les nombreuses, très nombreuses radios communautaires existant aujourd'hui.
Ce que je cherche à savoir, c'est qui était à l'origine de la création des radios, pour quel contenu, des contenus pédagogiques, des contenus commerciaux,
Il
musicaux.
y a autant de formules pour lancer et créer une radio que de types de radio existantes. Donc, on peut avoir des acteurs individuels, et là, ce sera plus le cas des radios privées commerciales. On a, comme je vous le disais, des partis ou des mouvements sociaux qui ont lancé leur radio. On a aussi, dans le cas des radios communautaires, bon, ça peut être une initiative individuelle, mais souvent en lien avec la communauté concernée. Donc, les radios associatives, en général, ça implique plusieurs personnes qui sont mises ensemble pour créer ce genre de médias qui s'adressent à la communauté, au milieu social dans lequel elles sont. Ensuite, les contenus, bah, sont très divers. On a assez peu, finalement, de radios généralistes, notamment en capacité de produire de l'information, parce que l'information, ça demande, bah, du monde, des moyens. Donc, pas mal de radios, en dehors évidemment des grosses radios urbaines, font plutôt de la reprise d'informations et se cantonnent à quelques bulletins d'information locales. Quand je dis reprise d'informations, c'est-à-dire diffusée par de grands réseaux, que ce soit RFI, que ce soit même localement par des initiatives comme au Mali, par exemple, le studio Tamani, qui est un projet de développement qui donne des bulletins d'information quotidiens aux radios et qui est assez largement repris. Ensuite, les autres contenus sont quand même très liés pour les radios communautaires aux intérêts de la communauté. Donc, ça va être, bon, il y a pas mal de divertissement, évidemment. Parfois, c'est du garnissage d'antenne avec de la musique. Il y a pas mal d'émissions qui ont attrait aux questions de société. Ça, c'est assez courant. Vous avez évidemment tout ce qui concerne la production agricole et les conseils aux agriculteurs, ou s'agissant de faire entendre la voix du monde rural. Voilà, il y a un petit peu de tout et selon les cas. Et en dehors des radios urbaines bien structurées, avec du personnel éventuellement payé, tout ça se fait évidemment avec très peu de moyens et donc bon, les antennes sont parfois un peu pauvres, mais notamment dans le cas des radios communautaires, on observe qu'ils essayent vraiment de répondre aux préoccupations de leur environnement et donc ils font des efforts pour avoir des émissions qui parlent aux gens. Ils ont même assez souvent constitué des groupes d'écoute. Ils ont une communauté d'auditeurs structurés qui dialoguent, dont ils prennent les opinions sur la manière dont il faut concevoir la radio. Voilà, c'est assez interactif, mais avec toujours la question des moyens, parce qu'il est bien évident qu'une bonne partie de ces radios associatives et communautaires n'a pas les moyens de rétribuer des animateurs ou des journalistes. Donc, tout ça se fait sur la base du bénévolat.
Comment on obtient la fréquence ?
Alors, bon, beaucoup de ces radios sont dans le maquis, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment identifiées, connues, autorisées, mais il y a une procédure d'agrément pour les radios qui souhaitent procéder à cette légalisation, ce qui fait qu'on n'a pas de chiffres vraiment fiables sur qu'est-ce qui existe réellement en termes de radios communautaires, mais on a les chiffres des radios enregistrées. Je suis allé voir là récemment sur le site de la Haute Autorité de la Communication et on avait environ 222 radios non commerciales qui étaient enregistrées, donc associatives et communautaires y compris, et 107 radios commerciales enregistrées. Alors pour les radios commerciales, je pense qu'on est plus proche de la réalité. Pour les radios communautaires, non, parce que là on annonce 222 radios associatives. Il peut y en avoir 300, il peut y en avoir 400, ça c'est très difficile de savoir.
J'ai bien compris, il y a des radios pirates, au Mali en particulier.
Oui, pas seulement au Mali, je pense que dans le moindre terroir, il peut y avoir des initiatives de radio. On sait que le matériel radio maintenant ne coûte plus très cher. Une fois qu'on a installé un petit émetteur, qui peut porter assez loin d'ailleurs, parce que le relief n'est pas forcément un obstacle, il y a pas mal de ces radios qui font pas la démarche d'un agrément, d'une reconnaissance par les autorités, même si on va dans cette direction. Mais pour l'instant, il y a quand même encore pas mal de radios. Je ne sais pas s'il faut les appeler pirates, ça paraît un peu fort, mais ils sont un peu dans une zone grise.
Quoi. Parce que ça ne dérange pas le pouvoir en place.
Non, et
il n'y a pas de radicalité particulière.
Il peut y avoir des émissions qui sont pointées du doigt. Il faut bien voir que là, je parle surtout des radios non identifiées ou mal connues. Il faut bien voir que ces radios n'ont pas forcément un objectif politique. Quand on est dans un petit terroir, dans un village à l'écart de tout centre urbain, il s'agit de parler à la communauté et de parler des choses qui l'intéressent. Donc, ce ne sera pas forcément quelque chose qui mérite pour les autorités de s'inquiéter des contenus. Voilà. Bon, dans tous les cas de figure, il peut y avoir une forme de régulation, ne serait-ce que parce que les autorités locales, préfets, gouverneurs, peuvent aussi écouter ces radios. Mais je pense que la question des contenus politiques des radios communautaires n'est pas vraiment un problème. Ça redevient un problème dans le cas des radios urbaines qui, évidemment, sont, de toute façon, la plupart sont enregistrées et repérées. Et là, il peut y avoir des contenus plus problématiques. Et donc là, on est dans un mode de fonctionnement plus formel.
Mais je pensais à l'utilisation de la radio à des fins de propagande, comme au Rwanda, par exemple, l'utilisation de la radio a eu des conséquences tragiques.
Je crois qu'on se fait peut-être une fausse idée des lignes éditoriales de ces radios. Une radio de propagande, en général, elle sera instaurée par un pouvoir. Par exemple, imaginons que les djihadistes choisissent d'utiliser la voix radiophonique pour véhiculer leur message. Ça ne s'est pas vraiment observé, d'abord parce que le phénomène de guérilla n'est pas favorable à une installation de pouvoir et donc un certain nombre de structurations, de moyens, notamment de propagande. Quand on a parlé de la propagande au Rwanda, la radio Mille Collines était une puissante radio urbaine, parfaitement identifiée, proche du pouvoir. Donc ça ne se fait pas comme ça. Non, je pense qu'il n'y a pas de risque majeur à ceci près qu'il faut évidemment sensibiliser les communautés et les agents de ces petites radios à ce qu'ils diffusent des messages qui soient plutôt positifs pour le consensus social. Il ne s'agit pas d'indexer les populations, de faire de la discrimination. On peut toujours avoir ce risque. Il y a peu de cas de dérapage flagrant qui sont remarqués parce que, encore une fois, ce sont des radios dans des espaces communautaires qui ont des comptes à rendre à leur population. Et si les populations considèrent que la radio dérape, ben à ce moment-là, le retour est vite produit. Donc, ça, je pense que c'est typiquement une vision de l'extérieur. Il n'y a pas tant de danger que ça lié à la capacité d'émettre, surtout dans des petits terroirs.
Quelles langues sont utilisées?
Une bonne partie des radios urbaines émettent en bambara, qui est quand même la langue véhiculaire au Mali. Sinon, ce sont évidemment les langues des terroirs concernés, donc que ce soit le sonraï, le tamashek, le bambara, etc., etc., le sonaké, voilà. Le français est peu utilisé, il est utilisé dans certaines grosses radios urbaines et à la radio nationale, mais essentiellement, la langue véhiculaire utilisée, c'est le bambara.
Sur l'avenir de la radio en Afrique.
Parlons de l'avenir de ces radios. Il est évident que, vu leur utilité sociale, notamment dans la version radio communautaire, ces radios ont de l'avenir parce qu'il faudra du temps avant qu'elles soient concurrencées par d'autres supports. Encore faut-il qu'elles aient un peu de moyens pour travailler et pour se structurer. Dans le milieu urbain où la pression des autres supports d'information est plus grande, ben on observe une assez bonne diversification, y compris création de sites internet, y compris avènement des podcasts, y compris certaines publications qui se mettent à faire de la télé sur internet ou de la radio sur internet. Celles-là suivent le mouvement, mais on peut dire que globalement, en Afrique, la radio a encore tout son avenir.
Merci à Thierry Perret pour sa présentation du paysage radiophonique en Afrique en général et au Mali en particulier.